Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Ici la Fée Bleue qui vous parle pour la première fois de cette nouvelle saison. Je sais, je suis un peu en retard, mais j'avais de bonnes raisons, c'est promis. Même mon chat était aussi délaissé que mon micro, et lui miaulait pour attirer l'attention. Parfois, il faut dire qu'on s'y perd. Le quotidien, les amis, la famille, les loisirs, et quand, comme moi, on aime vivre mille frissons à la fois, ça peut paraître insurmontable d'arriver à faire la moindre petite tâche notée dans l'agenda. Depuis la rentrée, je me suis remise à un système d'organisation que j'utilisais avant la pandémie, le Bullet Journal, sorte de journal personnalisable que Pinterest avait rendu trop artistique et créatif pour les néophytes. J'avais appris à m'en servir simplement, sous l'influence de Solange Te Parle, qui, elle-même, suivait les indications simplissimes de son créateur, le designer Ryder Carroll. Mais bon, on sait tous ce qui s'est passé en mars 2020, enfermé chez nous, sans travail, ou presque. Alors, après 2 ans à utiliser la méthode, j'avais lâché. Non sans une pointe de regret. Mais là, ce n'était vraiment pas la préoccupation à cet instant. Alors, quand l'esprit s'enfuit dans tout ce qu'il faut accomplir dans une journée, toujours plus, désir de performance et de performer, il est parfois bon de se rattacher au papier, sa texture entre les doigts, prendre le temps de lister, faire 1 ou 2 petits dessins pour apporter de la couleur et lâcher cet écran qui aspire notre âme l'espace de 5 minutes. C'est donc mon 3e bullet, comme je l'appelle. Il regroupe toute ma vie, si j'ose dire. C'est lui qui me rappelle que je dois prévoir du temps pour moi, pour voir mes proches, en plus des rendez-vous. Peut-être que ce n'est rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bullet, c'est une balle en anglais, quelque chose qu'on tire et qui va droit au but. Il nous permet d'aller à l'essentiel. On a tous besoin, je pense, d'un petit assistant, un être qui nous rassurerait. Il nous dirait « Ne t'en fais pas. » Fais une chose après l'autre. Regarde, tu as rempli tes objectifs. Tu es formidable. Et ce n'est pas grave si, aujourd'hui, tu ne peux pas faire cela. Tu le feras demain. Sois confiante, je suis là pour ça. C'est ce que fait mon petit Bugeot pour moi. Tout est en effervescence autour de nous. La peur et la bienveillance se disputent sans arrêt, comme le disait Camille à la dernière émission. Et je l'observe aussi. C'était ma petite technique à moi pour faire face, dont je vous fais part entre 2 jours sous 20 degrés en costume d'Halloween et 2 ronrons d'un petit chat ravi d'avoir sa maman pour la journée. Courage à vous. La saison n'est pas facile, mais si on met du cœur, la peur finira bien par s'essouffler et la bienveillance saura triompher.
Radio Tranxène, c'est... Merci la Fée Bleue pour ce billet d'humeur. Nous passons à présent à l'interview sur Radio Tranxène, diffusée sur Radio Judaïca. Je reçois cette semaine l'association du musée Michaelis, ce célèbre musée étudiant basé au Palais Universitaire de Strasbourg. Donc aujourd'hui, mes invités sont les bénévoles et les membres du bureau du musée Adolphe Michaelis. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors là devant moi j'ai une flopée de 4 étudiants qui font vivre l'un des musées les plus anciens et iconiques de Strasbourg. Alors je vais peut-être laisser la présidente et l'ancien chargé d'inventaire présenter la structure.
Alors déjà quelques mots sur l'histoire de cette collection. C'est une collection qui est assez ancienne. Elle a été créée en 1872, donc on est dans un contexte allemand, l'Alsace et la Lorraine ont rejoint l'Empire allemand, et on a la création de l'Université de Strasbourg à ce moment-là, et dans la tradition de l'enseignement allemand, pour l'archéologie, on a une gypsothèque qui est constituée, donc Strasbourg suit ce même schéma, et ses premiers moulages sont exposés au Palais des Rouens. Et en 1884, quand le palais universitaire est inauguré, la collection déménage et s'installe au premier étage du palais universitaire. On compte jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale à peu près 1500 moulages qui ont été acquis par Adolphe Michaelis. Et aujourd'hui, l'histoire de la collection fait que, suite à des mouvements, des déménagements, des casses aussi, la collection a perdu une part importante de ses moulages. Et aujourd'hui, l'association qui gère le musée travaille sur ces moulages pour continuer à les valoriser. Et on compte à peu près, dans nos estimations, car l'étude continue toujours de ces moulages, environ 1000 pièces conservées dans des états différents. Voilà.
Dans la vie d'un musée, donc, il y a le public qui vient voir les moulages. Donc c'est des répliques d'œuvres antiquisantes, orientales, de périodes très anciennes, dont on a les répliques. Vous avez donc la mission de conserver ces œuvres.
Voilà.
Au début, j'ai bien compris que c'est Adolphe Michaelis, le passionné, le grand connaisseur d'histoire de l'art, constitue ce fonds et crée cette collection. Et ce musée est devenu, avec le temps, un musée étudiant, où les personnes comme vous, gèrent la collection, s'occupent du récollement. J'aimerais maintenant passer la parole à la présidente, Sarah, qui administre ce musée. Tu pourrais nous parler de la structure étudiante qui aujourd'hui gère le musée ?
Oui, bien sûr. Alors, le musée a été, l'association qui s'occupe du musée a été constituée en 2015. Suite à une exposition qui s'est faite dans l'aula du palais universitaire. Donc cette exposition via la Grèce a permis de faire sortir quelques-uns de nos moulages au sein du musée, du palais. Et des étudiants, en voyant cette collection, se sont dit que il y avait derrière vraiment un potentiel absolument énorme. Et ont décidé justement de se constituer en association, donc les amis du musée Adolphe Michaelis, afin de permettre au grand public de découvrir cette merveilleuse collection. Donc aujourd'hui, les présidents se sont enchaînés ainsi que les responsables, et moi j'ai repris donc la main du musée en mai 2022. J'ai été élue à notre assemblée générale. Et du coup, notre association, elle est divisée en plusieurs pôles. Donc chaque pôle constitue un grand domaine du monde des musées. On va avoir par exemple le pôle communication qui va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, mais également découverte du musée au grand public.
Bien sûr, on a d'ailleurs Maëlys qui est là pour nous en parler juste après.
C'est ça qui pourra un peu nous en parler. Juste après.
Mais on a également donc le pôle inventaire qui est absolument important dans les musées parce que ça permet de connaître mieux aussi notre collection et derrière de mieux la présenter parce qu'on va avoir une meilleure connaissance de l'histoire de nos moulages, etc. On a ensuite le pôle médiation pour tout ce qui est visite, mais également création de panneaux au sein du musée, ce qu'on essaye de développer aujourd'hui, ce qu'on pourra un peu parler aussi plus tard dans nos principaux projets de l'année. Et après, on va tout avoir tout ce qui est aussi la restauration, parce que notre association s'occupe vraiment de tout le musée, de toute la collection, etc., de sa gestion. Et voilà.
Car l'un des grands avantages que vous avez à travailler au musée au palais universitaire, c'est que vous êtes des bénévoles étudiants qui travaillent de concert avec des professionnels. Il y a un conservateur, vous avez été même formé à la restauration, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vous ont... peut-être un restaurateur qui venait d'Allemagne, qui venait former...
C'est ça, oui.
Quand tu as parlé d'inventaire, c'est un travail de vrai professionnel. Qu'en tant qu'étudiant, vous avez appris à faire. Là, on a Mathieu Tarot qui a ouvert la discussion avec nous et qui a appris en tant qu'étudiant, tu t'es familiarisé durant toutes tes années d'étudiant à travailler avec ces moulages.
C'est ça. J'ai rejoint l'association en 2017 comme bénévole. Et en 2018, je suis passé responsable de l'inventaire. Donc, je ne connaissais pas forcément grand-chose au milieu des musées à ce moment-là, parce que pas d'expérience comme étudiant. Et c'est un domaine qui m'a énormément plu. Donc, je me suis formé sur l'état. Je me suis posé pas mal de questions. Donc, je me suis renseigné sur comment ça fonctionne, pour vraiment avoir une dimension professionnelle sur la gestion des musées, la gestion des collections. Et à la suite de ma licence, j'ai fait un master en muséologie, ce qui m'a permis de développer encore plus mes compétences. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années de mon côté et par mes formations, je le transmets aux bénévoles, que eux aussi puissent avoir une dimension vraiment professionnelle dans tous les actes dans la gestion du musée.
Cette transmission, tu as eu aussi tes mentors. Moi, je sais qu'il y a Jean-Yves Marc, qui est le conservateur du musée, Il y a aussi le professionnel, peut-être tout ce qui est photographie.
Oui, Pascal Didier.
Pascal Didier, voilà, donc vous avez des professionnels qui ont vraiment de l'expérience de la bouteille, n'est-ce pas, qui ont été là. Et aujourd'hui, maintenant, tu es bénévole, mais surtout tu es consultant parce que tu as fini tes études. Tu es maintenant dans la vie professionnelle. Tu suis la suite de ta carrière et tu es là quand même pour accueillir les nouveaux bénévoles. À ce sujet-là, moi, je tiens à saluer notre très récent arrivé dans l'association Michaelis.
Bonjour.
Bonjour Paul. Hein. Quand on parlait des missions de médiation, ça te touchait aussi parce que tu reçois le public.
Oui, tout à fait. La plupart du temps, c'est une fois par semaine. Tous les mercredis, je suis là pour accueillir le public, car le musée est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h.
C'est fantastique, hein. Vous n'avez pas fermé un jour de plus par semaine.
Eh oui, on a assez de personnel. Mon rôle, c'est essentiellement pour l'instant de l'accueil du public, et puis j'essaie de me former... avec les cadres de l'association dans les différents pôles. Je vais essayer de rejoindre le pôle médiation donc pour faire des visites.
Donc il y a de l'auto-formation, notamment Mathieu qui est là, par exemple quand il est au musée, il va pouvoir te briefer. Il y a aussi Sarah la présidente, qui s'occupe de former à la médiation. L'accueil des publics, la médiation, c'est le premier objectif d'un musée, celui qu'on voit le plus, parce que derrière il y a l'inventaire, la restauration, mais voilà, votre public, c'est vous les étudiants qui les recevez, vous recevez tout le monde, vous êtes le premier interlocuteur. Tout ça, c'est une affaire où il y a beaucoup de publics différents. On en vient peut-être à la communication, parce que quand on est une structure associative, on doit connaître son public.
Oui, effectivement. De toute façon, la communication, ça permet aussi de s'ouvrir sur le monde extérieur et d'avoir un plus large public. On a notamment une grande partie d'étudiants qui viennent admirer les collections. Beaucoup d'étudiants en art plastique, en art et design, histoire de l'art même, et voire archéologie, etc. On a beaucoup de familles aussi qui viennent, et beaucoup de scolaires à qui on fait beaucoup de visites, beaucoup de médiations, auxquelles Paul aura le plaisir de participer, justement. Donc c'est très riche en expérience aussi, et oui, s'ouvrir au monde surtout, c'est le mot principal.
Le cadre du palais universitaire n'est donc pas uniquement pour les étudiants et les professeurs. Vous êtes ouvert aux écoles, aux publics les plus jeunes et bien sûr aux publics plus âgés. Vous êtes même
bien
ouvert,
sûr, j'imagine, à tout le monde.
Il y a toute la question d'accessibilité, parce que quand on gère un musée, voilà, il y a des personnes qui ont des soucis de mobilité, par exemple. Il faut tout un travail sur les cartels pour rendre vraiment abordables toutes les références dans votre musée. Comment ça se passe un petit peu au niveau de l'accessibilité ?
Le musée est accessible grâce à un ascenseur qui se trouve dans le palais universitaire. Donc pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite, nous sommes déjà accessibles à ces personnes-là. Nous essayons vraiment de travailler.
Bravo.
Nous essayons vraiment de travailler pour ouvrir le musée au maximum de personnes et que le maximum de public puisse profiter des collections et également d'une possible visite guidée par un des médiateurs ou de choses comme ça. Donc ça, c'est un travail évidemment de tous les jours, de pouvoir toujours essayer d'être plus accessible et de toucher un public plus grand, plus large, etc. C'est aussi un travail de renouvellement. Donc, renouveler les visites, peut-être créer de nouvelles visites thématiques qui permettent d'aborder des nouvelles choses que les gens n'ont pas forcément eu l'occasion encore de pouvoir étudier, par exemple. Donc, c'est vraiment un travail de tous les jours, de renouvellement, de remise en question, etc. aussi de notre musée et qu'on fait avec tous les bénévoles.
Je trouve que ce travail est tout à fait impressionnant parce que c'est complet, le champ d'études est super vaste. Surtout que là, ce qu'on dit pas, c'est que le musée Michaelis, c'est des œuvres héritées de la Grèce antique, de la Mésopotamie, de la Rome antique. Donc, ça demande à la fois des connaissances et en même temps, vous faites le grand écart parce que vous rendez ça accessible aux enfants avec justement des par un langage clair, par des visites où on est devant les œuvres. Moi, je trouve ça fou en tant qu'étudiant que vous arrivez à faire tout ça. Peut-être que vous pouvez nous parler de vos parcours, Parce que c'est quand même c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est vos premiers pas dans la vie professionnelle, pour certains certainement, alors que vous êtes déjà à la tête, enfin vous êtes déjà acteur d'un musée. Quel est votre parcours, Mathieu, tu nous as parlé un petit peu de toi au début.
Mm-hmm. Alors moi j'ai fait une licence en archéologie à Strasbourg. À l'origine, je ne me voyais pas du tout travailler en musée. Et quand je suis rentré dans l'association, ça a été un peu un coup de cœur pour le domaine. Donc j'ai fait un virage à 90 degrés dans mes projets initiaux. Et puis j'ai fait la formation en muséologie à Mulhouse pour vraiment travailler dans les domaines des musées.
Waouh! Donc effectivement, les personnes du Palais U t'ont certainement déjà croisé, hein, voilà, archéologie et tout. Sarah, toi?
Alors moi je suis dans une deuxième année de ma licence en histoire de l'art, donc c'est vrai qu'au début quand je suis entrée au musée, donc en septembre dernier, je ne savais pas encore vraiment si je souhaitais travailler dans le monde des musées, enfin, j'hésitais un petit peu, je me posais pas mal de questions. Et pouvoir découvrir justement aussi la gestion d'une collection, ça m'a vraiment passionnée. Et je pense maintenant vouloir travailler dans le monde du patrimoine, peut-être dans la gestion aussi du patrimoine en danger. Donc c'est vrai que pour l'instant je continue un petit peu à me former aussi. Mon expérience de présidente, elle est incroyable, que ce soit en travailler en équipe, parce que on travaille constamment en fait avec tout le musée Michaelis et on construit tous ensemble en fait ce musée, les projets, etc. Mais également pouvoir vraiment s'occuper d'une collection, c'est une expérience qui est absolument unique et qui, je pense, se fait particulièrement, surtout à la Faculté des sciences historiques de Strasbourg, grâce à ce musée.
Déjà, chapeau, hein, parce que quand on est en histoire de l'art, comme beaucoup d'études basées sur, c'est des études de recherche, dans lequel le milieu de l'emploi en France est bouché, parce qu'il y a des concours de la fonction publique, fonction territoriale, qui ont des numerus clausus très réduits, c'est souvent la galère, hein, pour avoir un stage en licence, quand on n'a pas un niveau master, voilà, c'est difficile, tu m'en parlais, c'est aussi difficile d'avoir aussi l'habilitation en ayant ces concours, donc il y a un problème en France, dans la fonction publique, pour avoir justement son premier emploi quand on vient d'histoire de l'art, parce que c'est une des filières peut-être moins professionnalisantes, et votre musée donne l'occasion de se professionnaliser, et là, dès les années de licence. C'est pas toutes les facs, hein, d'histoire de l'art qui proposent de telles activités de fin de journée, hein. Bravo en tout cas, Sarah.
Merci.
Toi, Maëlys, tu es aussi en histoire de l'art ?
Je suis en deuxième année de licence histoire de l'art, notamment avec Sarah.
Les collègues de promo.
Voilà, oui. C'est exactement ça. J'ai rejoint le musée également en septembre-octobre de l'année dernière. Et au début, j'ai cru que j'allais avoir un champ très très restreint au musée, mais c'était tout le contraire en fait, puisqu'on a l'occasion notamment de pouvoir... avoir affaire à tous les pôles, notamment communication pour ce qui me concerne, étant donné que je suis responsable maintenant, mais également inventaire, également le pôle technique où il peut y avoir de la conservation et de la restauration. Du coup, toute cette sensibilisation-là, elle a vraiment été nécessaire et très très utile pour les cours, premièrement, et puis aussi être au contact avec ces œuvres quasiment tous les jours. C'est vraiment une chance énorme à laquelle on peut avoir affaire.
C'est vraiment des choix très judicieux que vous avez fait en vous investissant avec le bénévolat, car rares sont les stages qu'on peut avoir durant une licence où on peut toucher à la fois à l'inventaire, à l'administratif, au récollement des collections et en même temps à la com. Là, clairement, j'applaudis parce que faut de l'investissement, faut aller trouver du temps quand on n'a pas cours pour aller au musée. Bravo Maëlys. C'est super. Toi, allez, Paul, tu finis le tour de la table ?
J'ai un parcours assez différent, bien qu'assez lié. Je ne suis pas en histoire de l'art ou en archéologie, mais en histoire.
Oh là là, mais tu es voisin quand même, hein, dans le voisin. Palais universitaire, oui. Illustre faculté, Marc Bloch et tout. Hein.
Voilà, donc en tant qu'historien, je suis plutôt loin de tout ce qui est statues, art, antiques, ce genre de choses. Et donc ça me permet d'apporter un œil neuf, un œil que je pourrais qualifier de naïf, un petit peu.
Waouh.
dans le sujet.
Mais non, je me doute bien, cet info semblant, il n'est pas naïf. Qu'est-ce que tu cherchais en arrivant justement, en passant de tes cours d'histoire et en t'investissant dans un musée? Ce regard neuf peut-être, renouveler ton...
Voilà, ça me permet d'apprendre, ça me permet de m'investir dans un autre sujet que simplement l'histoire pure. M'investir dans l'art, parce que c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, voilà, ça me permet de me former, d'apprendre.
On retrouve les thématiques de sortir des études de recherche pour aller au contact de son public, en fait, du public, des autres, des œuvres par la même occasion. Donc, je me doute que le passage des cours sur diapositive et de l'étude textuelle s'est passé avec douceur, en passant à la 3D, les beaux reliefs. Vous avez tout, hein, vous avez tout à ce musée, donc les bas-reliefs, moyens reliefs, etc. C'est peut-être l'occasion de parler de vos trésors, après tout, parce qu'il y a des perles au musée Michaelis.
Ah bah oui, on a des ensembles très très importants. Le Parthénon, par exemple, l'acropole à Athènes. On ne peut pas passer à côté quand on va au musée. Une copie miniature de l'Athéna du Parthénon.
On a des extraits d'Athènes alors qu'on est à côté du Rhin.
C'est ça.
C'est fou.
Olympie, on a une très grande majeure partie des sculptures du temple de Zeus à Olympie. Égine, le fronton du temple d'Aphaïa à Égine. Donc on a quand même en termes d'ensemble cohérent, des choses quand même extraordinaires. Et pour ce qui est des reliefs ou de la sculpture en général, on a des pièces majeures pour l'histoire de l'art. Je pense à la Dame d'Auxerre, le Doryphore, Laocoon.
Certains de ces moulages sont uniques. Peut-être que les œuvres qui sont encore in situ sont en mauvais état comparé aux moulages que vous conservez. Vous avez des œuvres certainement qui permettent aujourd'hui de travailler d'un point de vue archéologique plus sûrement que d'aller sur place.
Alors oui, je suppose. Je ne connais pas non plus l'état actuel de toutes les œuvres dont on a les copies.
C'est que je pensais notamment à ce que Viollet-le-Duc avait entrepris quand il a créé le musée des moulages. C'est que maintenant les statues qui sont restées tout le 19e siècle dehors sont parfois moins bien conservées, plus érodées que celles qui ont été conservées en moulage.
Bien sûr. Après, l'autre intérêt du moulage, c'est que c'est aussi à lui seul un document d'archives. On a des moulages qui ont été imprimés, moulés au 19e siècle, et on a eu des phases de dérestauration pour les sculptures originales. Donc on a des états qui sont antérieurs avant ce qu'on peut avoir aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant pour l'histoire de l'œuvre en elle-même, les transformations qu'elle a pu subir au fil du temps.
Ah, c'est super intéressant, vous êtes le disque dur de sauvegarde de l'histoire de l'art.
Voilà, pour les copies de moulage, c'est aussi un aspect qui est très très intéressant pour les œuvres.
Peut-être parlons des actualités. En termes de communication, alors dans les prochains temps, quelles seront les expositions qu'on pourra aller voir à votre musée?
Eh bien, on peut désormais maintenant voir l'exposition Trésor Michaelis, qui est déjà dans une des alcôves du musée depuis quelques mois maintenant. Donc, pour déconstruire, on va dire, les clichés sur le musée, on a certes beaucoup d'œuvres de l'Antiquité, mais là, cette fois-ci, c'est la Compagne de Diane de René Frémin, qui date du début 18e siècle, qui est exposé. Donc ça permet de casser les clichés, de se dire qu'on a aussi d'autres œuvres qui font partie intégrante du musée. Du coup, elle sera encore présente encore quelques mois, donc avis aux visiteurs qui souhaitent la voir.
Voilà, vous avez jusqu'à janvier 2023 peut-être pour voir l'actuelle exposition.
Oui, c'est exactement ça.
Super. Voilà. Et vous avez un roulement, c'est-à-dire que dans quelques mois, on aura un nouveau trésor.
C'est tout à fait ça. C'est justement tout le concept de Trésor Michaelis. C'est sortir un moulage chaque année, donc janvier-février, et pouvoir éclairer un petit peu plus son histoire, justement, et pouvoir faire voir au public d'autres œuvres du musée.
D'autres actualités peut-être que vous avez à mettre en avant ?
Oui, bien sûr, on a la médiation qui sera rendue plus accessible pour tout public. Également de nouveaux panneaux de médiation qui vont faire leur apparition pour une meilleure accessibilité, pour vulgariser d'une certaine manière les œuvres qui sont devant justement les visiteurs. Et plusieurs activités qui seront mises en place par la suite.
Très bien. Donc vous avez votre site internet, vous avez la page sur Facebook aussi, c'est ça vos...
Facebook, Instagram et également le site sur lequel il y a plein d'informations.
Très bien. Donc avis aux passionnés de belles statuaires, hein, allez voir les stories sur Insta.
Il y a également le développement de l'inventaire qu'on peut noter. Notamment depuis 2 ans, Mathieu développe un récollement assez important pour, on va dire, pour avoir une meilleure étude de la collection et pour la faire justement connaître un peu mieux du large public et surtout du musée pour mieux transmettre à l'avenir cet inventaire qui est mis en valeur.
Tout ce travail permettra au public qui connaît déjà votre musée, qui est déjà venu au moins une fois, de revenir, justement parce que tout aura bougé, tout aura changé. Au niveau de votre structure, donc vous avez beaucoup de bénévoles, peut-être plus d'une cinquantaine, vous avez combien de bénévoles
Actuellement, nous avons une soixantaine même de bénévoles, 65 je crois.
Très bien, je vous souhaite beaucoup de courage bien sûr pour la formation de tous ces étudiants bénévoles. Est-ce que vous avez des besoins je demande ça souvent en fin d'émission, en tant que structure, aussi bien les partenariats, les bénévoles, vous avez l'air d'avoir plein de bénévoles, ça a l'air de bien se passer. Quels sont vos besoins?
Alors aujourd'hui, notre besoin principal, et c'est ce que nous demandons assez souvent aux personnes avec qui nous travaillons, ce serait d'avoir un chargé collection au sein du musée, parce qu'aujourd'hui, donc, la collection est gérée entièrement par les étudiants, ce qui est très bien et ce qui est extrêmement bien fait, etc. Cependant, les étudiants ont à côté aussi une vie, ils ont leurs études, ils ont des choses comme ça à faire, et également, qui dit étudiant dit un perpétuel mouvement. Que ce soit des responsables, mais également du cadre administratif, etc. Ce qui fait que certains projets ne peuvent pas être forcément menés sur le long terme. Et nous avons énormément de projets qui doivent être justement menés sur plusieurs années, notamment le récollement de la collection, des choses comme ça. Et nous aimerions beaucoup avoir un chargé collection qui pourrait être un poste fixe, un salarié en poste fixe au musée, qui pourrait donner des lignes directrices, on va dire, au projet, qui pourrait vraiment être là à des horaires fixes et pour mener à bien les projets. Donc ce serait vraiment pour nous une bonne chose.
C'est aussi une récompense qui est due aux les étudiants qui sont diplômés et qui maintenant ne demandent qu'à travailler. On peut légitimement se demander quand seront créés de nouveaux postes. J'imagine que c'est comme attaché de conservation. Là, un responsable des collections qui viendra rejoindre Jean-Yves Marc, Pascal Didier, les professionnels qui travaillent aussi à votre musée. Ce poste-là permet d'ouvrir un champ des possibles aux étudiants d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'art pour une suite. Moi, je pense dans les années 60, la faculté de Strasbourg avait été connue pour parrainer le service de l'inventaire d'Alsace qui s'est créé très tôt, ont été créés pour les étudiants d'histoire de l'art qui commençaient leur vie professionnelle de vrais contrats. Hein. Au début, c'était contrat en CDD, ça ne portait pas ce nom à l'époque, et ça a débouché sur des professions de conservateurs qui ont été créées de toutes pièces pour les étudiants. Ces débouchés professionnels sont vraiment importantes.
Ah oui, complètement.
On a besoin aussi, j'imagine, de mécènes. Vous cherchez peut-être des collaborateurs.
Oui, également, parce que donc aujourd'hui notre association fonctionne principalement avec les mécénats, mais également les dons du public. Et nous cherchons peut-être de nouveaux mécènes, tout simplement parce que nous avons énormément de projets en tête pour également continuer de développer le musée et de l'agrandir et d'agrandir les possibilités et les choses que nous offrons au public, etc. Et c'est vrai que nous cherchons également peut-être à augmenter un petit peu, même nous, notre campagne de mécénat pour pouvoir peut-être rendre accessible le musée encore plus de personnes, etc. Donc ce serait une chose également que nous allons faire.
J'espère que nos auditeurs passeront vous voir au musée pour en savoir plus sur comment ils peuvent s'investir, participer à l'essor de votre beau musée Michaelis. Merci à tous les quatre d'être venus en interview sur Radio Judaïka.
Merci à vous.
Et plein de bonnes choses pour la suite de votre vie professionnelle et bien sûr de la vie du musée Adolphe Michaelis.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À bientôt. Radio Tranxène. C'est... Vous êtes sur Radio Tranxène, on passe maintenant à la chronique musicale. Donc pour cette deuxième émission de la saison, on va interviewer une chanteuse et guitariste rockeuse qui fait vibrer tout Strasbourg depuis longtemps. Je vous présente Sophie Steff. Sophie Steff, bonjour.
Bonjour à toi.
Tu es là pour nous parler du projet Yojimbo.
C'est ça, exactement.
Du gros rock, du stoner rock. Qui fait vibrer les tripes, dans lequel les concerts sont toujours endiablés.
Exactement.
Alors, le rock, ça te tient à cœur. Tu pourrais nous parler un petit peu de ton projet ?
Ah oui, alors Yojimbo, ça a commencé en 2019, un peu sous la forme d'une blague à la base. Parce que Yojimbo existait déjà sous un autre format, avec du rap français sur du stoner.
Une espèce de fusion
très inspirée de Rage Against the Machine à la base. Et au final, la personne qui assurait le chant est partie. Et puis, en fait, c'est deux musiciens avec qui j'étais en fac de musicologie il y a presque 10 ans de ça, qui se sont dit « Hey, on sait que Sophie, elle fait du rock. Est-ce que, est-ce qu'on ne l'appellerait pas ?»
Alors, tu es la rockeuse qui sauve le projet. Aujourd'hui, maintenant, ta voix, elle est iconique dans ce projet parce que voilà, c'est une voix qui est terriblement forte, rock, qui tape. Et bien sûr, tu apportes ta contribution à la guitare, au son, avec la distorsion et des riffs percutants.
Et du fuzz.
Ah oui, oui. Alors le fuzz, cet effet caractéristique du son 70s, super... Ça tape, hein, c'est des distorsions qui sont à la fois brutales, basiques, parce que ce son-là, c'est le plus percutant, celui qui fait entrer en résonance les amplis. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu pour le son de Yojimbo ?
C'est un savant mélange déjà de plein d'influences musicales. Donc, en fait, on se considère comme intergalactique stoner rock, mais c'est un fourre-tout absolu. Dans Yojimbo, il y a du stoner, il y a du doom, il y a du post-rock, c'est progressif. Voilà, donc c'est pas forcément tout le temps lourd, tout le temps distordu. Il y a aussi des mélodies beaucoup plus planantes avec de la reverb et du délai. Voilà.
Ah, et donc tout ce qui est reverb, délai, ça repose sur quel instrument alors ?
Guitare.
La guitare avec des effets, des filtres. Donc vous avez aussi bien des enveloppes que voilà, tout ce qui est traitement de son pour envoyer avec la disto.
Exactement.
Du coup, tu fais de la guitare électrique ?
Oui.
Je sais aussi que tu as un autre projet du nom de Two Magnets. Vous êtes passé par Radio Judaïka il y a 3 mois. Un autre son. Dans le projet Yojimbo, qu'est-ce qui tenait à cœur justement, peut-être lâcher justement toute l'énergie que tu as en toi à donner au public?
On peut dire ça comme ça. Je viens plutôt du milieu rock à la base. Et c'est vrai qu'en fait, Two Magnets, donc ce projet folk blues totalement acoustique, est venu un peu après ou en même temps, enfin j'ai eu d'autres projets déjà, donc c'était plutôt Two Magnets qui est venu calmer mon rock habituel, on va dire. Donc c'est vrai que dans Yojimbo, quand je ressors d'un concert par exemple, je suis en sueur, je suis à bloc, alors que oui, dans Two Magnets c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus tranquille.
Alors j'adore quand tu dis calmer mon rock habituel, c'est dire à quel point tu vis ça depuis toujours. Hein.
C'est un peu ça, oui.
Je pense que le public le ressent tout de suite, qu'on est face à quelqu'un qui vit le rock pour de vrai dans sa vie de tous les jours et qui a des choses à raconter, parce que c'est le côté percutant du rock, ça passe par la sincérité et le fait qu'on en voit pour de vrai. Comment ça se passe un concert de Yojimbo?
Ça se passe très vite, hein, en vrai. C'est ça qui est toujours assez surprenant. On a un set qui dure à peu près 1 heure et on a l'impression qu'en un claquement de doigts, c'est fini. Tellement on a mis d'énergie, tellement on a mis toute notre passion et toute notre envie de faire bouger le public.
Forcément, une proximité incroyable. Vous avez un live qui est disponible sur YouTube, live à la Maison Bleue.
C'est ça.
Ce lieu iconique du métal, du rock, des styles indés de Strasbourg. Comment ça s'est passé la dernière fois à la Maison Bleue? C'est super underground là-bas, c'est des super rockers qui vont là-bas, le public est génial.
C'est bien vrai, en plus j'y travaille.
Donc, voilà. Bah, dédicace à la Maison Bleue.
Dédicace à la Maison Bleue.
Une salle de répétition mais aussi une salle de concert associative.
Exactement, tout à fait, qui est gérée par l'association Dirty Eight du coup.
Yeah.
Du coup, ce live, en fait, ça a été la fin d'une résidence de 4 jours qu'on a faite là-bas. Donc vraiment résidence de création lumière, de réglage des sons sur scène et en façade. Et on s'est dit, il faut clôturer ça par le tournage d'un clip live pour justement donner le fruit du travail accompli pendant ces 4 jours. Alors, ce dernier jour-là, c'était le dimanche. On était bien fatigués, mais pourtant, on a réussi quand même à donner encore tout ce qu'on avait pour bien le tourner. Et ça rend plutôt pas mal, je crois.
bien sûr, vous étiez en forme à fond. on va écouter, bien sûr, ta musique tout à l'heure, la chanson Battlefield. Comment ça s'est passé, la reprise post-Covid, la composition, le retour dans les salles de répète, et puis la naissance des derniers morceaux que vous avez composés?
Alors, la reprise post-Covid, si on peut dire ça, c'est plutôt bien passé, parce qu'en fait, ça a mis un frein total à notre projet. Nous, on a démarré en 2019, donc on s'est mis ensemble en avril 2019, on a fait nos premiers concerts à partir du mois d'août 2019. Une belle série, puis paf,
et là, terminé. Plus de salles de concert.
C'est ça.
Les rockers ont besoin d'endroits dans lequel jouer, sinon voilà. Pourquoi répéter?
Exactement, donc on était vraiment, on a vraiment eu l'herbe coupée sous le pied. On avait prévu de sortir un EP déjà en 2020, qui est finalement sorti en 2022, donc cette année en mars.
Cool, bah j'applaudis parce que voilà, vous avez rien lâché.
On n'a pas lâché, non, ça c'est vrai. Après, 5 reports, je crois, hein, donc... du coup, là, on a repris les concerts. On en a fait pas mal en avril, en juin. Et puis là, il nous en reste encore un dernier en novembre pour 2022. On jouera pas à Strasbourg, pour le coup. On jouera à Sarrebourg, au Old School Family, le 11 novembre.
Trop bien, c'est un petit festival?
Non, c'est une salle café-concert, du coup. Voilà. Et on se dit que là, pour 2022, on fait plus de concerts. On se concentre sur la composition, le maquettage d'un possible prochain EP.
Très bien.
Voilà. Donc,
vous êtes, après avoir sorti l'EP en 2022, là, directement, vous enchaînez avec les compositions.
Oui.
Votre premier EP s'appelle comment?
Il n'a pas de nom, en fait. Il est éponyme.
Il
s'appelle Yojimbo.
Il s'appelle Yojimbo.
Voilà.
Le premier d'une longue série.
C'est ça, exactement.
On peut vous écouter sur Internet. Est-ce que vous avez choisi de le tirer peut-être sur des CD, des vinyles, des cassettes, je ne sais pas?
Alors oui, sur CD, on en a, effectivement. Et sinon, on est disponible sur toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Bandcamp, iTunes, Deezer, etc.
Super, super. Donc si jamais il y a des fans là qui veulent trouver un CD en physique, il faut qu'ils viennent vous voir en concert.
Alors soit ils peuvent venir nous voir en concert, soit ils nous envoient un petit message sur Facebook directement, comme ça s'est déjà produit avec quelques personnes, et en fait ils sont tous à la Maison Bleue les CD. Donc ça permet de faire super. Un petit tour à la Maison Bleue si on ne connaît pas en plus.
Bien sûr, bien sûr, allez répéter, allez voir comment est cette salle iconique de Strasse. On va écouter donc Battlefield. Tu pourrais nous parler un peu de ce morceau effectivement, moi, ce qui me saute aux yeux, de toute façon, quand tu joues, c'est cette science efficace et terriblement catchy des riffs de guitare.
Alors, pour parler de Battlefield, c'est un morceau, effectivement, comme tu le dis, qui est plutôt efficace, avec plusieurs phases, qui représentent assez bien ce qu'on peut être. Parce que nos morceaux... ne sont jamais vraiment linéaires, on va dire. On se retrouve dans un morceau, puis un autre, c'est d'autres ambiances. Tout ne se ressemble pas, en fait.
Ouais, j'ai compris que vous étiez vraiment souvent dans l'exploration de sonorités.
C'est ça.
Ces histoires de délai, de reverb sont super intéressantes parce que ça permet de passer au-delà des codes du simple rock brut type stoner. Parce que voilà, tu parlais de Doom, par exemple. Le Doom qui a un style très, très posé de métal, très lent, avec des BPM qui sont souvent... des tempos qui sont souvent deux fois plus lents que sur du métal conventionnel. C'est l'occasion d'explorer des textures, des variétés de grains.
Exactement. Bah justement, dans Battlefield, il y a un petit passage qu'on pourrait considérer comme du Doom aussi. Et au-delà de ça, au niveau des paroles... c'est un morceau qui me tient plutôt à cœur, parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai écrit, mais en fait, je tâche toujours d'avoir des paroles plutôt engagées. On a quelques morceaux plus contemplatifs, plutôt on se pose dans un espace, on explore. Là, c'est plus, comme son nom l'indique, le champ de bataille. Donc ça parle de la guerre. Et ça parle notamment du fait que c'est jamais ceux qui font la guerre qui en sont à l'origine, et que c'est toujours ceux qui sont au-dessus et qui ont des querelles à régler entre eux qui envoient les autres en tant que chair à canon. Voilà.
L'histoire du rock est toujours marquée par des questions de société dont il faut parler dans les paroles, et tu t'inscris là dans cet héritage ?
Oui, complètement. J'ai besoin d'exprimer ce genre de choses. Disons que pour moi, la musique, c'est aussi un moyen de véhiculer un message. Donc, je m'en sers pleinement.
Bien sûr, d'où l'anglais, le fait que ta musique puisse traverser les frontières.
Exactement.
Et être comprise de tout le monde.
Exactement.
Tu écris bien sûr toutes les paroles.
Oui.
À la composition de Battlefield, comment ça s'est passé vous composez tous dans le groupe ?
Alors oui, en général, y en a un qui vient avec un riff de guitare, et puis après on commence à tricoter tous autour.
La science de la salle de répète.
Voilà, c'est ça. Et du coup, là, pour Battlefield, c'est le riff que j'ai composé un jour, que j'ai eu comme ça un déclic. Le premier riff qu'on entend d'ailleurs, du coup, dès le début du morceau, je suis venue avec, et puis on a commencé à tricoter autour, comme je le disais, et voilà ce qui en est sorti.
Pour la suite, tu nous as parlé de Sarrebourg.
Oui.
Au mois de novembre. On pourra s'attendre donc début 2023 à pouvoir vous voir à nouveau en concert.
Tout à fait. Alors pour l'instant, il y en a que deux ou trois qui sont prévus. Mais là, je cherche particulièrement une date pour Strasbourg parce qu'on a pas mal de monde qui nous demande hey, quand est-ce que vous rejouez à Strasbourg ? Ça fait longtemps.
À bon entendeur, hein, je suis sûr que des salles comme le local seront ravies de vous envoyer une invitation. On a parlé aussi de l'excellente salle de Maison Bleue. Hein, j'en appelle à nos auditeurs qui ont aussi des projets à faire fonctionner. Il y a tout un noyau de petites salles qui ne demandent qu'à découvrir des pépites comme ton groupe. Donc voilà, vous pouvez facilement prendre contact. Pourquoi pas, si vous êtes un groupe de stoner rock, de rock, contactez Yojimbo pour faire une programmation à deux.
Avec plaisir.
On a hâte en tout cas de découvrir ce son, votre prochain EP qui sortira certainement l'an prochain, et le retour des lives à Strasbourg, moi je serai là.
Cool, trop bien.
Merci d'avoir été là avec nous, Sophie.
Merci beaucoup.
On écoute maintenant Battlefield par Yojimbo. Voilà, c'était le morceau Battlefield du groupe Yojimbo. Merci encore à Sophie Steff d'être venue nous donner une interview à Radio Judaïka. Radio Tranxène, c'est fini, voilà. Donc on est diffusé le dimanche à 19h et les mercredis à 10h du matin. On espère que vous avez passé un très bon moment et puis à très bientôt. Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.